Nous avons des fous de Dieu, oui, des gens qui dépassent tout entendement. Nous avons même un saint, un des premiers saints de l'Église qui est remarquable, saint Pamphile. Il y a eu des gens au Québec qui autrefois étaient réputés, ils s'appelaient Pamphile. Nous avons aussi saint Renan, imaginez saint Renan, un Irlandais. Il y en a qui connaissent sans doute Ernest Renan, un grand ennemi de la foi au siècle dernier. Et aussi un saint britannique, et puis quelqu'un qui est mort avec ses compagnons au Japon, au temps des grandes persécutions, il y a plusieurs siècles. Alors commençons avec saint Pamphile, qui était de Césarée de Palestine, oui, de Césarée, où est passé saint Pierre, hein, en Palestine, en Israël. Il était devenu très habile en toutes sortes de sciences, que ce soit des sciences spirituelles, ecclésiastiques ou des sciences humaines. C'était un homme très cultivé. Le fameux historien Eusèbe de Césarée assure que Pamphile était un des premiers hommes de son siècle. Eusèbe de Césarée le regardait comme celui qui, de tous ceux qui ont confessé la foi de Jésus-Christ, ou la foi en Jésus-Christ, si on veut, était le plus digne de sa vénération et de ses louanges. Ce sont ces mots. La vertu de Pamphile, sa piété, était en somme égale à sa science. Il avait hérité de beaucoup de biens de son père, mais il s'était fait pauvre en distribuant aux pauvres tout ce qu'il avait. Toutes les choses ordinaires de la vie, les choses périssables, ne l'intéressaient guère. Même ne l'intéressaient pas. Il n'avait en somme d'affection et de désir que pour les choses invisibles, pour le bien des âmes, pour la gloire de Dieu. Et son mérite, sa conduite remarquable a fait qu'il a été ordonné prêtre. Et on dit qu'il, pour l'époque, il célébrait la messe beaucoup plus souvent, n'est-ce pas, que la plupart des prêtres. C'est qu'il tenait, disait-il, à s'immoler lui-même. Et il s'offrait à celui qui s'était donné tout entier pour lui, à Dieu, quoi. Il n'était pas avare du tout de ses connaissances. Il aimait beaucoup communiquer aux fidèles ce qu'il savait, soit par sa propre bouche, soit par ses écrits. Il a produit de nombreux ouvrages qui, malheureusement, ne nous sont pas parvenus. Ça a été détruit. A surgi une persécution terrible au début du IVe siècle, ou vers l'an 300 quelque chose, et ça a été rallumé, ça, cette persécution. Il y avait eu la persécution de Dioclétien, n'est-ce pas, de Maximien, et de Galère, mais là, ça a été Maximin qui l'a rallumé, cette persécution terrible. Et il a été arrêté par le préfet de la province de Césarée, en Palestine. C'était un homme qui avait beaucoup profité des lumières de saint Pamphile, de ses connaissances, de sa culture et surtout de sa foi. Il avait appris de lui les règles de l'éloquence et les secrets de la philosophie, mais il était craintif. Ben, il était préfet, n'est-ce pas, d'une province, et il était très soumis au tyran Maximin, qui lui fit oublier toutes les obligations qu'il avait à l'égard de Pamphile. Et alors, ce préfet de province, qui s'appelait Urbain, a fait paraître devant lui, devant son tribunal, saint Pamphile. Et il a voulu le persuader d'adorer les idoles et de renoncer à Jésus-Christ, mais il a trouvé en lui une fermeté solide dans sa foi. Une fermeté, comme on dit, apostolique. Elle venait à travers les quelques siècles, elle venait directement du cœur des apôtres. Et puis, toutes les promesses qu'on lui faisait, de succès, d'honneur, de richesse, ça ne le touchait pas du tout. Les menaces ne l'ébranlaient pas. Alors, Urbain, le préfet de Césarée, a commandé au bourreau de tourmenter Saint-Pamphile très cruellement. Et il n'y a pas eu un seul de ses membres, disent les actes, c'est-à-dire les rapports écrits des témoins, pas un seul de ses membres qui ne fut mis en sang. On lui a fendu la chair avec le tranchant d'un rasoir. Hein. Et ce supplice a duré très longtemps, au point que le juge, confus de sa propre cruauté, puis de la constance là, de Saint-Pamphile, ont décidé d'arrêter puis de le conduire dans une prison où il est demeuré 2 ans. 2 ans, imaginez. Et l'esprit de Saint-Pamphile, de cet intellectuel, de ce grand homme de foi, était enfin libre dans un certain sens, libre de proclamer sa foi aux autres prisonniers, même s'il était continuellement enchaîné. Il a aidé vraiment ses compagnons de prison à partager ce bonheur intérieur qu'il ressentait dans sa foi. Il les a fortifiés dans leur foi pour les amener à accepter de souffrir en prison, de souffrir souvent des tourments terribles en pensant à la mort de Jésus-Christ qui, innocent, pur, si bon, a enduré un martyre effroyable, celui de la flagellation, du couronnement d'épines et de la crucifixion, sans compter le port terrible de la croix, c'est-à-dire de la partie supérieure de la croix, n'est-ce pas, le patibulum. On dit même que c'est en prison que Saint-Pamphile a composé quelques-uns de ses livres qui sont disparus. Et c'était pas tellement difficile pour lui, dans un sens, après avoir amassé une très belle bibliothèque dans le monde, on dit qu'il était devenu lui-même une bibliothèque vivante. Ça me rappelle un bon ami à moi, que j'aimais beaucoup, qui a vécu ici longtemps au Québec, à Québec, Monseigneur Albert Ndongmo. Monseigneur Ndongmo, un Camerounais, que j'avais connu au Cameroun, où j'ai fait plusieurs films pour Radio-Canada. Monseigneur Ndongmo a été persécuté par le pouvoir politique parce qu'il s'intéressait vraiment trop aux pauvres en établissant des coopératives et de l'aide pour les pauvres Camerounais, surtout ceux de sa tribu. Et il a été obligé avant de se réfugier au Québec, il était obligé de vivre dans des conditions terribles. On l'a emprisonné dans une prison pendant un bon bout de temps dans la noirceur. Et c'est avec l'aide de Paul VI et de représentants de Paul VI qu'il a obtenu d'avoir un peu de lumière et la Bible. Et simplement avec la Bible, il a écrit des livres, car il était lui aussi une bibliothèque vivante, comme Saint-Pamphile. Il y a, dans ce 20e siècle, des gens qui ont vécu des tourments similaires à ceux de ce saint qui est mort en l'an 310. Il a été exécuté après 2 ans de prison sous un autre président de tribunal nommé Firmilien et avec plusieurs autres fidèles, parmi lesquels il y avait son propre serviteur qui s'appelait Porphyre et qui a enduré, raconte toujours les documents les plus sérieux, il a enduré des tourments absolument inhumains. Il a été fouetté, son serviteur, très, très cruellement, de même que, comme Pamphile, toute sa chair était déchirée. On lui voyait, disait-on, un peu de ses entrailles, et on l'a brûlé ensuite à petit feu, sans que jamais Porphyre n'a laissé entendre un seul cri, ni une parole de plainte. Il avait voulu imiter Saint-Pamphile et son maître. Ce fut, pour tout ça, une punition, si on peut dire, pour le préfet de Césarée, Urbain, là, qui avait été plus ou moins un disciple de Saint Pamphile. Et ce pauvre homme a eu, pas longtemps après, une mort subite après un banquet. L'historien Eusèbe de Césarée témoigne qu'il avait composé la vie de Saint Pamphile en 3 volumes, mais malheureusement elle a été perdue. Il avait tant d'amour pour Saint Pamphile, pour ce martyr extraordinaire qui avait impressionné toute l'Église de son époque en Palestine et jusqu'à Rome, qu'il a décidé de prendre le nom de Pamphile en l'ajoutant à son nom d'Eusèbe. Eusèbe de Césarée, qui est très très connu, s'est fait appeler pendant un certain temps Eusèbe de Pamphile. Mais il n'a pas imité au même point sa constance dans la foi, puisque on a pu reprocher à Eusèbe de Césarée, au fameux concile de Tyr, que la crainte des tourments dont il avait été menacé avait fait que, comme le raconte Saint Jérôme, il a accordé ses louanges à la doctrine arienne. Il faudrait revenir là-dessus, les Ariens niant la divinité du Christ. Je vous rappelle que Saint Pamphile, dont c'est la fête aujourd'hui, est mort en l'an 310. Au siècle dernier, l'un des principaux intellectuels qui a lutté contre des dogmes très importants de la foi catholique s'appelait Renan, Ernest Renan, qui a écrit un Jésus très important que j'ai déjà lu autrefois. On en parle actuellement encore dans les livres récents. Il y a un livre qui vient de paraître chez Flammarion au sujet d'Ernest Renan. Mais Saint Renan, ce n'est pas ça du tout, évidemment. C'est un Irlandais qui est mort au 6e siècle, soit dans l'an 550. Et il est allé en Grande-Bretagne où s'est converti au catholicisme. C'est assez curieux qu'un Irlandais se convertisse au catholicisme en Angleterre, mais c'était comme ça à l'époque. Et de là, il a décidé de s'expatrier pour Jésus-Christ. Puis il a pris la mer. Et il est débarqué sur la côte nord du Finistère, en France. Il a vécu quelque temps en ermite, au lieu qui porte aujourd'hui son nom d'ailleurs. Ça s'appelle Saint-Renan. Puis la curiosité des foules autour de cette ermite, car les gens aimaient les ermites. Hein. Il y en a beaucoup en France aujourd'hui. On dit qu'il y a à peu près 500 ermites. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, sont obligés de se barricader car trop de gens veulent aller les visiter. J'en ai visité quelques-uns en France et en effet, c'est souvent extrêmement intéressant que de rencontrer ces gens qui vivent complètement isolés dans un élan de prière, et certains d'entre eux me semblent profondément sincères et d'authentiques ermites en pleine fin du XXe siècle. Alors, les foules l'ont obligé, en somme, à chercher refuge en Cornouailles, au pays de Locronan. Locronan, où Anne de Bretagne a fait élever une église pour abriter son tombeau. Et celui-ci a été refait par la fille de Anne de Bretagne, Renée de France, vers 1305. D'ailleurs, en Bretagne, où sont les traces de Saint Renan, eh bien, il y a une table dans cette église qui est soutenue par 6 pilastres, auxquels sont adossés 6 anges qui portent des écussons et des livres. Et sur la table repose le gisant de Saint Renan. Il porte les insignes pontificaux, la mitre, la crosse, selon une coutume. On n'est pas sûr qu'il ait été un évêque, hein? Pas sûr. Et je vous ai parlé de cette petite ville de Locronan. C'est que tous les 6 ans s'y déroule une grande procession, unique en son genre. Hein? On appelle ça la grande troménie. Les Bretons sont forts sur ces grandes processions. Hein? Et ça touche le territoire de 5 paroisses. Ça comporte 12 stations. C'est énorme. Hein? Et le mot Troconan ne signifie pas tour de la montagne, mais bien tour de l'asile, car le tombeau de Saint-Renan est devenu comme un asile. Pourquoi? Parce que le territoire sanctifié par ce saint a joui pendant des siècles et des siècles du droit d'asile. Qu'est-ce que le droit d'asile, n'est-ce pas? C'est le droit de se réfugier quand on a commis quelque chose qui n'est pas recommandable et que la police de l'époque, ou les soldats, poursuivaient quelqu'un comme ça, la personne pouvait se réfugier, avait un droit d'asile. Le droit d'asile existait dans les cathédrales, les églises, les couvents, les monastères, et aussi, comme on voit, sur de petits territoires, à cause d'un saint. Je vous parle maintenant d'un autre saint curieux. Saint Whiston. C'est un saint qui mériterait une pièce de Shakespeare. Il est mort en 849. On le considère un peu comme un martyr, mais c'est pas sûr. Il y a des vies de saints comme ça qui nous offrent des choses absolument étonnantes, vraiment étonnantes. Whiston, c'est W-I-S-T-A-N et non pas T-O-N. Whiston appartenait à la famille royale de Mercy en Angleterre. Mercy, c'est M-E-R-C-I-E. C'est une région d'Angleterre à l'époque, dans le premier millénaire, qui était très importante. On dit que c'était un prince qui était pieux, mais qui était d'accord, préoccupé, comme on l'était souvent chez les vrais chrétiens à l'époque, préoccupé de vraiment gagner son ciel, comme on disait. Un de ses parents convoitait la main de sa mère qui était veuve. Et son parent, qui était son parrain, voyait dans Whiston un obstacle bien gênant, parce que Whiston disait à tout le monde qu'il y avait une affinité spirituelle qui s'opposait en somme au mariage entre son parrain, le prétendant, et sa mère. C'était une loi de l'Église qu'un parrain d'un enfant ne pouvait marier la mère ou le père de cet enfant. Curieux. Alors, une entrevue a été ménagée entre le parrain puis le filleul. Et je vous ai dit que c'était un drame shakespearien. Bien, imaginez ce qui s'est passé. Le parrain aurait voulu donner un tendre baiser de paix à son filleul. Alors, on pense à Judas, n'est-ce pas? Au jardin Gethsémani avec Jésus. Et le parrain dégaine, sans faire de bruit, un poignard. Il porte à la tête du jeune Whiston un coup horrible, dit-on, qui l'a presque scalpé. Puis finalement, il achève Whiston et le tue. C'est une scène d'horreur épouvantable qui s'est déroulée dans l'est du pays de Galles d'aujourd'hui. Le pays de Galles, comme vous savez, c'est en Angleterre, en Grande-Bretagne. C'est un pays où on parle le gallois, et vous connaissez le prince de Galles, n'est-ce pas? Le fils de la reine est toujours prince de Galles. Ce crime est arrivé, survenu le 1er juin 849, donc il y a bien longtemps. On dit qu'on a vu pendant 30 jours une colonne de lumière qui s'élevait de l'endroit où était tombé le pauvre Whiston, qui se montait jusqu'au ciel. On dit qu'aussi qu'au premier jour de juin chaque année, une chevelure d'homme apparaissait pendant une heure pour commémorer ce malheureux prince qui avait été scalpé. Alors, il faut pas trop se presser d'accorder le titre de martyr à ce Whiston. Et le Moyen-Âge dit volontiers martyr quand nous, on dit tout simplement assassiné. Hein. Je vous rapporte là les commentaires de deux éminents bénédictins qui sont de très grands historiens des saints et qui ont publié d'innombrables volumes sur ces questions. Je passe maintenant à Saint Siméon. Saint Siméon qui, lui, c'est un moine grec, c'est un absolument phénoménal encore, c'est un très grand voyageur. Mais très grand voyageur qui était aussi un ermite. Imaginez un voyageur qui était un ermite ou un ermite qui est voyageur. C'est absolument abracadabrant. Il est mort en 1035. C'est vraiment un spécimen là, de la sainteté érémitique, comme on dit. C'est un spécimen aussi de la sainteté itinérante. Il a vécu, je vous l'ai dit, au XIe siècle. Il est né, ce moine grec, en Sicile, donc au sud de l'Italie, à Syracuse. Il a vécu en ermite à Bethléem et au mont Sinaï. On rapporte qu'il a voyagé, c'était incroyable, son abbé du mont Sinaï, le mont Sinaï, vous savez où c'est, n'est-ce pas, en Israël et dans le désert, là. Et son abbé l'a envoyé en Normandie, donc dans le nord-ouest de la France, pour y recueillir des présents que le duc Richard II faisait au monastère du mont Sinaï. Siméon est monté sur un navire à Venise, un navire vénitien. Et puis, il n'avait pas encore quitté le Nil, où il était, près du au mont Sinaï, qu'il fut pillé par les pirates. Et Siméon s'est jeté à l'eau. Il a reçu, il a tout perdu. On lui a donné un vieux vêtement pour se couvrir. Puis, il s'est rendu à Antioche, dit-on. Là, il est bien reçu par le patriarche des princes. Et puis, il rencontre là un pèlerin d'Occident, Richard, qui était abbé de Saint-Vannes, à Verdun, imaginez, en France, et qui se rendait à Jérusalem. Les gens voyageaient à pied dans ce temps-là de façon absolument phénoménale. Là, ils sont devenus de grands amis, ce Richard, abbé de Saint-Vannes, et notre Saint-Siméon. Puis, Saint-Siméon attend son retour pour continuer avec lui son voyage vers la France. Mais Siméon souffre beaucoup de la part des païens qui l'attaquent. Il finit par aboutir, entraîné à Belgrade, aux confins de là où habitent les Bulgares et les Hongrois, dit-on dans les vieux textes. Et là, on lui interdit de continuer sa route. Et puis, finalement, il gagne par la mer Rome, puis finalement aboutit en France. Il se rend à Angoulême, et puis finalement, il arrive à Rouen. Rouen, n'est-ce pas? Ça vous rappelle Jeanne d'Arc? Et puis, ça, c'est vers la fin de 1027. Il mourra 8 ans plus tard. Il se rend finalement à Verdun. Il va jusqu'à l'abbaye de Saint-Martin à Trèves. L'année suivante, en 1028, il accompagne l'archevêque de Trèves en Terre Sainte. Il retourne en Terre Sainte. Au retour, il obtient de vivre en reclus, enfin, dans une cellule de ce qu'on appelle la Porta Nigra, c'est-à-dire la porte noire à Trèves. Il y a une porte très vaste, n'est-ce pas, qui était fortifiée. Et puis, on l'appelait la porte noire parce que les pierres étaient noires. Et le corps de garde impérial devenait, après des siècles, finalement, un petit monastère pour un ermite. Il a vécu reclus là pendant 7 ans et il est mort le 1er juin de l'an 1035. Sa vie a été écrite par l'abbé de Saint-Martin de Trèves sur l'ordre d'un archevêque, de l'archevêque de Trèves. Et Saint-Siméon a été canonisé par le pape Benoît IX le 8 septembre de l'an 1042. C'est vraiment un cas exceptionnel dans l'histoire des saints. Un saint qui se veut ermite, qui commence comme ermite à Bethléem, qui se retire au monastère du mont Sinaï, qui finit par aboutir à voyager par toute l'Europe, de haut en bas, de droite à gauche, pendant des années, et qui finit par mourir comme ermite, enfin, tel qu'il le désirait. Et maintenant, nous allons passer à un saint qui a donné son nom à Saint-Ignace. C'est assez surprenant. Quand on voit les plus anciennes signatures de Saint-Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, son nom, c'est Inigo. I-N-I-G-O. Inigo. Or, Saint-Inigo, qui a été très admiré par Saint-Ignace de Loyola, a été abbé d'un monastère en Castille, dans la province de Burgos, c'est-à-dire en Espagne, quoi. Saint Inigo était abbé, donc, de ce monastère fondé en 1010 et qui était de l'observance, comme on dit, l'observance bénédictine de la fameuse abbaye de Cluny, cette immense abbaye de Cluny, n'est-ce pas, en France, qui régnait, dit-on, sur plus de 5000 monastères. Et il fallait vraiment un supérieur capable de mener à bien cette œuvre qui avait été entreprise en 1010. Et le roi de Castille, Sanche, a fait appel à un ermite qui était notre saint Inigo, qui avait une grande renommée de sainteté. Il était né dans la province de Bilbao. Il avait vécu donc en ermite. Puis finalement, il a pris l'habit bénédictin, qu'il était arrivé à la fonction de prieur avant d'être nommé abbé. On n'est pas trop sûr. Et alors, il s'est senti appelé à reprendre la vie d'anachorète, pratiquée avant son entrée dans le cloître. Puis, il a fallu l'intervention personnelle du roi Sanche pour le décider à venir dans cette abbaye d'Ognat pour devenir l'abbé. Le monastère a prospéré, le roi l'a comblé de ses faveurs, puis Inigo, par son ascendant, dit-on, a créé la paix autour de lui. Ces hommes de prière et ces hommes de vie intérieure réussissent presque toujours à créer la paix autour d'eux. Et il a attiré, disait-on, même la pluie sur la terre qui s'était desséchée. Il a improvisé, dit-on, un jour, de quoi nourrir une foule, comme Jésus. Et le mal qui devait l'emporter l'a pris à quelques lieues de l'abbaye. Et arrivé à l'abbaye, il a prié qu'on rafraîchisse, disait-il, les jeunes garçons qui l'avaient escorté avec des torches. Et on lui a dit, mais quel garçon ? Alors, on n'avait rien vu. Alors, on s'est demandé si c'était une hallucination de malade, s'il avait perdu la tête. Mais il était tout à fait normal, dit-on. Alors, on s'est demandé si c'était pas des anges. Voyez-vous, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle des anges. Et ce saint Inigo est mort un 1er juin, en 1060. Il a été pleuré des Juifs et des Arabes qui vivaient dans le royaume de Castille, en Espagne. Vous vous souvenez, les Arabes, les musulmans avaient envahi déjà depuis des siècles une grande partie de l'Espagne. Il y avait aussi en Espagne à l'époque beaucoup de Juifs, et on dit que les Juifs et les Arabes, les musulmans, aimaient beaucoup ce saint homme. Il est possible que l'abside d'une église qu'on appelle Sainte-Eulalie d'Estaon nous offre une espèce d'image nimbée, là, avec un nimbe, un rond autour de la tête de notre héros, de saint Inigo. Ce serait un des plus anciens vestiges du culte qu'on lui rendait, parce que ce culte était immense. Le pape Alexandre III l'a canonisé en 1163, soit un peu plus de 100 ans après sa mort, et en 1259, 200 ans après sa mort, Alexandre IV a accordé une indulgence. Les indulgences étaient très importantes à l'époque, et on courait après ça, à tous ceux qui visiteraient l'abbaye d'Ognat pour la fête de saint Inigo. Et le saint est devenu tellement populaire que saint Ignace de Loyola a été baptisé Inigo. Je vous l'ai dit au début, ses signatures de jeunesse sont sous ce nom-là. Je vous parle maintenant d'un fou de Dieu. Je vous ai dit ça au début, des fous de Dieu. Il y a un livre très intéressant qui est paru aux éditions du Seuil il y a quelques années de John Sayward, S-A-W-A-R-D. Dieu à la folie, c'est l'histoire des saints fous pour le Christ. C'est un ouvrage vraiment passionnant, c'est très très intriguant. Vous avez à la fin un index alphabétique de tous les saints, de tous les gens, donc de tous les noms propres qui sont mentionnés dans ce livre. Il y a aussi une table, et on parle de différents saints, y compris des chartreux, des fous de Dieu qui étaient russes, de l'église russe. Des cisterciens, des... mon Dieu, de Jean-Joseph Surin, n'est-ce pas, le fameux exorciste. Et puis, enfin, vous verrez, c'est le Saint-Joseph-Benoît Labre, hein, le fameux Saint-Joseph-Benoît Labre, qui était un fou de Dieu. Quel saint admirable, par contre. Hein. Alors donc, Saint-Thibault. Saint-Thibault, j'avais toujours pensé que Saint-Thibault était un homme de grande noblesse. C'est un saint du XIIe siècle qui n'est pas sans rapport avec le fameux Matt Talbot, ou Matt Talbot, n'est-ce pas, cet ouvrier irlandais qui, de nos jours, se divertissait au XIIe siècle, n'est-ce pas, dans son rude métier, parce qu'il y trouvait une ascèse des plus dures. Et la grâce à travers les siècles a de ces renouvellements. Je vous le dis, il y a des saints qui ont vécu au XIIe siècle comme saint Thibault, et on les retrouve, les mêmes saints de notre temps, au siècle dernier, comme saint Joseph Benoît Labre. Alors Thibault était un Piémontais, donc un Italien. Ses parents étaient plutôt à l'aise. Ils ont voulu donner à Thibault une bonne éducation, mais il était fasciné, Thibault, par la pauvreté, parce que elle est méprisée. Et c'est vrai que quand on se met à aimer les pauvres, on est surpris de voir qu'ils sont vraiment si méprisés. Et on se demande pourquoi. Alors, il a quitté la maison, il s'est embauché chez un fabricant de chaussures, puis il ne pouvait pas dissimuler ses dons naturels, qui étaient fort utiles dans le commerce des chaussures. Si bien que son patron, en mourant, l'a invité à épouser sa fille et à prendre sa succession dans ce commerce des chaussures, de fabrication des chaussures. Alors, Thibault n'a pas voulu troubler son patron qu'il aimait bien. Il a fait une réponse plutôt vague et après l'enterrement, ben, il a laissé à la veuve tout ce qu'il avait pu gagner de salaire et d'argent. Puis il est parti sans un sou. C'était d'excellentes conditions, si on peut dire, pour faire le grand pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Et puis de retour finalement à Alba, dans le Piémont, eh bien, il a choisi le métier de portefaix, porter des lourds fardeaux. Je me demande si aujourd'hui ceux qui portent de lourds fardeaux pensent aussi souvent au Christ comme lui. Le Christ qui titubait sous sa croix, sous le patibulum, n'est-ce pas, la partie supérieure de la croix. Et au fond, à l'apostolat qu'il pourrait exercer auprès du pauvre monde qui en a bien lourd à porter. Nous avons tous notre croix à porter et des souffrances à porter. Et ceux qui portent de lourds fardeaux pourraient s'offrir en pensant ainsi à communiquer par l'amour, à travers le corps mystique, une âme plus sereine, afin que les gens sachent vraiment endurer ce qu'ils ont enduré dans la sérénité. Et saint Thibault a aidé les autres à porter leurs charges. Il aidait à porter les peines du cœur, qui sont terriblement pesantes. Et il entretenait ses forces, dit-on, par curieusement des jeûnes. Il couchait par terre. Et un jour, il a fait une chute spirituelle. Pas une chute physique, une chute spirituelle. Quelqu'un l'a provoqué. Il s'est fâché, puis il lui a lancé une malédiction. Comme on dit, nous, maudit, n'est-ce pas? Et lui, il l'a maudit. Il a regretté cette faute. Alors, pour l'expier, sa faute, il a fait vœu de balayer jusqu'à sa mort la cathédrale de l'endroit, puis d'en allumer les lampes, car à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, évidemment, et il fallait entretenir les lampes pour éclairer les... C'était très compliqué. Il a demandé, humble jusque dans la mort, d'être enterré dans un terrain vague entre la cathédrale et une autre église. On dit que plusieurs enfants morts auraient recouvré la vie à sa tombe. Et Thibault, saint Thibault, est patron des portefaix piémontais. Voici un autre fou de Dieu, le bienheureux Jean Pellingotto, encore un Italien tertiaire séculier de l'ordre franciscain qui est né à Urbino en 1240, à peu près à la même époque. Son père était marchand. C'est une sorte vraiment de saint Joseph Benoît Labre, lui. Il a voulu, marchand, initier son fils à l'art du négoce. Encore un autre qui veut entraîner les saints dans l'affaire de l'argent. Mais Jean s'y prenait de telle sorte qu'on dit qu'il enrichissait plutôt les autres que sa propre famille. Il a eu bientôt toute faculté pour suivre son goût pour la solitude, pour la prière, pour l'eau monde. Il est entré dans le tiers-ordre de Saint-François. Il aurait voulu quitter sa famille qui le retenait. Il disait, laissez-moi, ne m'ennuyez pas, car j'ai trouvé un trésor caché et je vais vendre tout pour l'acquérir et le garder. J'ai trouvé notre Seigneur, plus précieux que le diamant, plus beau que la lumière, plus suave que les parfums, plus délectable que tous les festins. Enfin, ses parents ont accepté de l'aider un peu, mais ils n'ont pas voulu le laisser partir. Ils l'ont respecté, ils l'ont gardé à la maison et ils ne l'ont pas entraîné dans le négoce, comme on dit, dans la fabrication et la vente de produits. Il se croyait perdu, Saint Jean, ce bienheureux Saint Jean. Il se croyait perdu dans la foule. Il essayait de disparaître, de ne pas avoir l'air de quelqu'un qui venait d'une famille assez à l'aise. Puis, il était à Rome, n'est-ce pas, en 1300. Son humilité ne parvenait pas à dissimuler ses vertus remarquables. Mais les gens se sont mis à le montrer du doigt dans la foule à Rome. « Ah, c'est le saint qui vient d'Urbino. » Et puis, il distribuait aux pèlerins l'argent qu'il recevait. Et il entendit à un moment donné, à celui-là, il ne faut pas donner une piécette, mais tout ce qu'il voudra. Alors, voyant qu'on lui donnait trop d'argent, il ne savait plus quoi faire. Et car sa vie était d'une austérité, paraît-il, très rare, comme Saint Joseph Benoît Labre, il n'y a pas si longtemps. Il a passé quelque temps comme reclus, et puis il est sorti pour secourir les pauvres et les malades. Il se vêtait de l'or, qu'on dit. Un dimanche, la Passion, il est venu dans la cathédrale avec une corde au cou, puis il fut saisi d'une extase. C'est curieux, ces fous de Dieu, qui ne sont pas si fous, finalement. On les juge comme des gens plus ou moins malades, mais souvent leur foi est si grande que Dieu s'en occupe très étroitement. Et un jour d'hiver, le bienheureux Jean Pellingotto s'est laissé moquer jusqu'au soir au marché parmi un ramassis de mendiants. Il acceptait qu'on rit de lui, qu'on se moque de lui. Et il est mort un 1er juin de l'an 1304. Et un de ses confrères mendiants lui dit « Où allez-vous ?» Et il mourait et il a dit « À la gloire du paradis ». Et le 13 novembre 1918, et ça a pris du temps, plus de 600 ans, Benoît XV a ratifié le culte qui est rendu au bienheureux Jean Pellingotto. En Angleterre, le bienheureux John Story, S-T-O-R-E-Y. On dit qu'il est mort martyr en 1571. Je ne veux pas soulever le cas de ce bienheureux en pensant seulement à ceux qui, dans des guerres qui ne sont pas nécessairement des guerres de religion, qui sont souvent des guerres de pouvoir, qui prennent le nom de guerre de religion, et je ne voudrais en rien faire sentir à nos frères anglicans qu'ils ont eu tort, pas du tout. Nous n'oublions pas que sous Marie Tudor, quand cette reine a régné, reine catholique, eh bien, il y a eu aussi des martyrs anglicans. Les gens qui trouvent que ça n'a pas beaucoup changé et que c'est toujours la même chose à travers le monde devraient bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les anglicans et les catholiques et les protestants prient ensemble de plus en plus, fraternisent, s'entraident, apprennent à se respecter et à s'aimer. Notre siècle est un siècle beaucoup plus de grande entente que de grandes querelles. Et les martyrs de notre siècle sont beaucoup plus les martyrs politiques, dus en grande partie au marxisme, au communisme, qu'à des questions religieuses. Il faut vraiment s'en rendre compte. Hein. Et le bienheureux John Story, qui est mort martyr en 1571, est né en 1504. Il avait fait ses études à Oxford. Il est devenu un homme de loi célèbre. Il est entré au Parlement. Il avait prêté le serment protestant, le serment anglican de suprématie sous Henri VIII. Les anglicans ne sont pas nécessairement des protestants. Ce sont aussi, on peut les considérer souvent comme des catholiques séparés de Rome, n'est-ce pas, de l'Église catholique romaine. Donc, il avait prêté le serment de la suprématie d'Henri VIII. Mais sous Édouard VI, il a pris une attitude d'opposition à cette réforme anglicane. Un discours qu'il a prononcé et lui a fait grand tort. Il s'est écrié en paraphrasant Isaïe, chapitre 3, verset 4, « Malheur au pays qui a pour roi un enfant ». Et cela a fait scandale. On l'a emprisonné 2 mois à la Tour de Londres, qui était un peu analogue, comme on sait, n'est-ce pas, à la Bastille en France. Et finalement, libéré, il a gagné Louvain, en Belgique d'aujourd'hui. Et là, il s'est montré catholique fervent. Et l'accession au trône de la reine Marie Tudor, qui était catholique, lui a permis de revenir dans sa patrie, l'Angleterre. Et il a été couvert d'honneur. Et puis, il s'est mis à poursuivre les protestants, mais sans la cruauté qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui poursuit des gens d'une autre religion à l'époque. Et finalement, bien, Élisabeth a remplacé Marie Tudor. Vous vous souvenez, la fameuse reine Élisabeth, qui, elle, était anglicane. Et alors, John Story a été mis en prison. Mais il s'est échappé, puis il est allé de nouveau à Louvain. Et il a reçu une pension du roi d'Espagne, qui lui a été considéré comme espagnol. Il n'avait plus rien pour vivre. Je vous rappelle, c'était un grand homme de loi. Il était entré au Parlement d'Angleterre. Alors, il a recherché tous les livres qui luttaient contre la foi catholique, tous les autres objets de contrebande sur les bateaux anglais qui mouillaient à Anvers. Anvers qui n'est pas tellement loin de Louvain, n'est-ce pas? Et puis, un jour qu'il était bien occupé dans sa besogne à bord d'un bateau anglais, dans sa besogne de espèce d'inquisiteur, si on peut dire, de censeur, mais le bateau anglais est reparti pour l'Angleterre et à Yarmouth, il a été livré aux autorités. Alors, il a eu beau crier qu'il n'était plus citoyen anglais, mais sujet du roi d'Espagne, toutes ces distinctions juridiques n'ont pas eu de poids. Et il a expliqué qu'au temps de Marie Tudor, quand il était en Angleterre, il avait sauvé la vie de nombreux protestants, mais la passion politique et le fanatisme de certaines personnes, je dis bien de certaines personnes, c'est pas l'ensemble des gens, n'est-ce pas? Eh bien, le fanatisme ne pardonnait pas. Et il a été supplicié à Tyburn, avec toute la cruauté possible. On retrouve sa vie dans les Lives of English Martyrs, The Cam. On retrouve aussi dans Butler et Thurston, Lives of the Saints, hein, du mois de juin. On trouve ces récits. On les trouve aussi dans The English Catholics in the Reign of Elizabeth, les catholiques anglais sous le règne d'Élisabeth. Ce sont des livres que je ne vous recommande pas nécessairement, parce que c'est tellement triste, au fond, toutes ces querelles et toutes ces inimitiés, et qui sont dues en partie à la grande décadence de l'Église catholique au 15e siècle et au début du 16e siècle, sous Alexandre VI et tout ça. Et ces réformes qui se sont opérées en dehors de l'Église, il faut comprendre jusqu'à quel point ces chrétiens étaient désireux de retourner à l'Évangile. Ils l'ont fait, à mon grand regret personnel, en dehors de l'Église. Et c'est ce que le pape, dans sa dernière encyclique, dont il a été question aux nouvelles à Radio Ville-Marie aujourd'hui, et qui sera encore mentionné tout à l'heure, j'imagine, aux nouvelles, Dans cette dernière encyclique, le pape fait appel, n'est-ce pas, à l'union, au pardon. Et il s'excuse lui-même de tous les torts de l'Église catholique. Et je termine, ces saints, en vous parlant du bienheureux Alfonso Navarrete, un castillan, donc un espagnol. Le père Navarrete a été martyrisé en 1617 au Japon. Au début du XVIIe siècle, il y a eu des persécutions terribles contre les catholiques au Japon. On peut lire les récits sous la plume d'un des grands écrivains japonais catholiques de l'heure, Suzuko Endo, Endo, E-N-D-O. Si vous voyez de ses livres, achetez ça, c'est passionnant. C'est un grand romancier et c'est aussi un historien et quelqu'un qui écrit des nouvelles admirables et qui puise ses sources souvent dans l'histoire de ces grandes persécutions. En 1867, il y a donc plus de 100 ans, 205 confesseurs de la foi qui avaient été martyrisés au Japon ont été béatifiés par Pie IX. Ils ont été canonisés il n'y a pas longtemps. Il y avait parmi eux des dominicains et notamment ce père Navarrete. Et au Japon, en 1611, il y a eu des persécutions plutôt terribles, mais le catholicisme se répandait quand même, et à Nagasaki, le père Navarrete a organisé des confréries pour soigner des malades et recueillir les enfants abandonnés. Et il a tenu tête à des furieux, des gens qui le détestaient, qui voulaient violenter les pauvres vieilles chrétiennes après avoir jeté au feu tous leurs objets de dévotion. Et les chrétiens voulaient tous voir le père Navarrete qui les défendait au risque de sa vie. Ils voulaient avoir le père Navarrete, Alfonso Navarrete, près d'eux. Et finalement, on l'a arrêté. Puis il a été décapité avec un jésuite catéchiste. D'autres dominicains ont obtenu le martyr au pays du Japon, pays du soleil levant. Et on peut dire que ce grand soleil rouge, qui est l'emblème du Japon, ce grand soleil de sang, devient, au fond, un soleil du sang du Christ. Et on peut souhaiter que les Japonais, dont l'âme est si noble souvent, pour la plupart des Japonais, je les trouve remarquablement nobles, ils ont quelque chose à offrir au christianisme. Et les Japonais que j'ai connus, qui étaient des catholiques, j'ai connu, moi, des Japonais qui étaient catholiques depuis, pour ainsi dire, depuis toujours, depuis des siècles et des siècles, des grandes familles catholiques ferventes et qui sont demeurées catholiques, même s'ils n'avaient pas de prêtres, sont des héritiers du sang versé dans leur pays. Le 10 septembre 1622, 5 prêtres, 4 Espagnols et 1 Italien, avec 4 scolastiques de l'ordre des Dominicains, sont morts à Nagasaki, brûlés à petit feu. Et il y eut, comme ça, 22 victimes, dont plusieurs franciscains, des jésuites. 30 autres, en général des Japonais convertis, ont été décapités. Il faut lire ces récits, c'est absolument passionnant. C'est quelque chose qu'il faut lire, et il faut se rendre compte que même aujourd'hui, au Rwanda, il y a des gens qui ont été martyrisés ou qui ont offert leur vie avec beaucoup de générosité, comme certaines religieuses italiennes dont il a été question récemment dans le magazine Time et dont je vous parlerai un jour avec grand joie. Je me demande si vous avez lu dans le dernier numéro de l'Informateur catholique, le numéro du 28 mai au 10 juin. C'est publié à toutes les 2 semaines, l'Informateur catholique. Mais si vous avez lu ce bel article sur Radio Ville-Marie, intitulé « Pour amener les Québécois un peu plus loin, un peu plus près de Dieu ». C'est une entrevue avec le directeur de Radio Ville-Marie, M. Claude Gousse. Il y a un très beau texte aussi en bas de page, « Que devrait être la radio religieuse ?» Je vous recommande fortement de vous abonner à ce journal excellent qui s'appelle l'Informateur catholique. On peut s'y abonner en téléphonant sans frais au 1-800-465-1070, l'informateur catholique, un journal que je vous recommande. Il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce journal. Par ailleurs, je vous signale une conférence qui aura lieu le 13 juin, très importante à Montréal, un mardi 13 juin à 19h30. Quelle est cette conférence? Eh bien, c'est l'abbé Michel Coist. Michel Coist qui est très, très écouté. La dernière fois qu'il est venu à Montréal, il y avait au moins, je pense, 1000 personnes à sa conférence. Cette fois-ci, la conférence sera donnée, donc, mardi le 13 juin à l'église Saint-Pierre-Apôtre. Au métro Baudry, c'est tout près de Radio-Canada. C'est cette grande église devant Radio-Canada, 1201 rue de la Visitation. Michel Coist, je vous le rappelle, est auteur de nombreux ouvrages de réussir, prière, Dieu n'a que des désirs, chemin de prière, Dieu m'attend. Ce sont vraiment des ouvrages à lire. Je vous cite un bref passage de son ouvrage « Prière ». Fais que mon regard ne salisse pas celui qu'il touche, qu'il ne trouble pas, mais qu'il apaise, qu'il n'attriste pas, mais qu'il communique la joie, qu'il ne séduise pas pour retenir captif, mais qu'il invite et entraîne à se dépasser, pour que mon regard sois tout cela, Seigneur, une fois de plus ce soir, ce jour, je te donne mon âme, je te donne mon corps, je te donne mes yeux, afin qu'en regardant les hommes, mes frères, ce soit toi qui les regardes, et de chez moi leur fasse signe. »